Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, la boîte à souvenirs.
Vincent Moscato.
Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Moscato, j'ai 54 ans, je suis un ancien joueur de rugby, champion de France. Aujourd'hui, animateur radio, humoriste et acteur, et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC, la boîte à souvenirs.
Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, nous sommes avec le grand Vincent Moscato. Salut Vincent.
Mais comment tu vas mon poulet?
Écoute, tout va très bien. Et toi?
Ça va? Ben, impeccable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est bien là, on est en vacances. Hein. Comment ça fatigue hein, cette fin? L'hiver, tout ça, ça nous met l'anxiogène dans la tête, tu vois.
En tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.
Bien sûr.
Et Vincent, je sais que tu vas nous régaler pendant ces fêtes de Noël. Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments de joueur, tes cicatrices, ta reconversion exceptionnelle évidemment. Alors ton boulot est très simple. Face à toi, tu as une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur, et au fil de notre discussion, tu vas les tirer au sort et nous allons évidemment raconter ta vie dessus. C'est simple aussi, il y a un mot, une date, un moment. Tu es dans quel état d'esprit avant de débuter ta boîte à souvenirs?
Je ne sais pas, je suis un peu quand même inquiet. Je sais que c'est un truc un peu plus intime, un peu plus personnel, bien entendu. Donc je suis un peu inquiet. Tu sais, j'ai toujours du mal un peu à me lâcher. Donc j'attends avec impatience les questions que tu vas me poser.
Bon, tu sais, on va rigoler aussi dans cette émission. Hein.
Mais bien entendu.
Car tu as des surprises, tu auras des surprises.
Ah, d'accord.
Et des copains à toi qui voudront intervenir à un moment donné dans cette émission.
Tout à fait.
Vincent, on débute avec le premier papier.
Donc je pioche. Là, voilà. Alors là, les Raptous. Voilà.
C'est quoi les Raptous?
Ben les Raptous, c'est l'origine du mal. C'est-à-dire les Raptous, rappelle-toi, c'est dans la bande dessinée, c'était les trois Raptous qui.
Ouais, le gang de bandits là.
Voilà, le gang de bandits masqués, rasés, ils étaient rasés avec Serge Simon, avec Philippe Gimbert, avec Laurent Vergion, c'était rasé la tête et ensuite on avait été champion de France. C'était un grand souvenir parce que c'est un souvenir qui est pour moi assez pur et qui a duré trop peu de temps et ça c'était difficile ensuite à retrouver.
Les frangins de la première ligne. D'ailleurs, nous avons retrouvé un sujet de l'époque, les Raptous, véritable phénomène de société, en tout cas à Bègles-Bordeaux.
Ils sont inséparables, unis dans la vie qu'on en mêlait et pourtant très différents les uns des autres. Il y a Philippe et Laurent, plutôt timide et réservé, Serge, l'intellectuel, futur toubib et assurément le plus doué balle en main. Enfin Vincent, véritable force de la nature, fort en gueule, amateur des rings de boxe et réputé bon vivant.
Alors les Raptous dans la bande dessinée, ils sont quatre. Hein. Il y a la science, c'est le chef et le cerveau de la troupe.
Voilà.
C'était qui?
Oh, je sais pas s'il y avait le cerveau, mais Serge, comme il faisait des études, était classé dans ce genre de truc. Et c'est vrai que Serge était un gamin déjà assez brillant, assez intelligent. Donc c'était lui qu'on classait comme le cerveau, bien sûr.
Il y avait la gonflette aussi. Le plus fort de la bande, c'était qui?
Je sais pas. Peut-être moi, non? Je sais pas, non?
Ouais, Gimbert. Possible. Je reprends les Raptous. Ouais. Après, tu me diras.
Il y avait Philippe Gimbert qui était très fort, pilier droit, et Laurent Verger, qui avait un vrai talent, Laurent Verger, qui était capable de jouer à tous les postes, ce qui est très rare dans le rugby, qui était un type qui se déplaçait beaucoup, qui était costaud, qui avait vraiment toutes les aptitudes d'un beau joueur de rugby.
Parce que moi, sinon, dans les vrais Raptous, j'ai aussi Burger. C'est celui qui mange tout le temps. Il y en avait un, quoi? Les quatre?
Non. Ah, peut-être, oui, Burger. Ouais, Gimbert, ouais. J'aime bien manger beaucoup.
Ouais, et pour terminer, j'ai Pois Chiche, le plus bête des Raptous.
Non, ça je ne qualifierai pas, alors c'est moi. Alors.
Avec les Raptous, tu vas remporter ton premier titre de champion de France le 1er juin 1991. Tu joues face au Stade Toulousain et vous gagnez 19-10.
Et c'est fini. Et Patrick Robin siffle la fin du match. Hommage de Philippe Rouget-Thomas à Coco Delage. Échange de maillots d'une finale impeccable, normalement gagnée par Bègles, qui nous promet quelques bons jours encore.
Oui, Bègles qui reste quand même encore une équipe au devenir ou au maintenir, si vous voulez. car ils sont champions de France, personne ne le contestera.
Vous avez profité de cette victoire ? Véritablement.
Oui, on en a profité, mais pas assez longtemps, parce qu'après, le Discord est arrivé. On n'était pas champion. Par hasard, on avait quand même créé, inventé, c'est toujours, personne n'invente rien, on fait qu'améliorer, mais là, on avait créé quelque chose, c'est-à-dire ces groupes pénétrants, c'est ce jeu bien calculé, ce jeu avec l'image du stade toulousain, c'est-à-dire un contournement, inlassablement un contournement, mais ce qui devenait de plus en plus dur de contourner parce que les hommes évoluaient physiquement et que des fois, il fallait se rentrer dans la gueule et nous, on l'avait trouvé, on l'avait trouvé en se resserrant, en faisant ce qu'on appelait la tortue, c'est-à-dire à l'image de ces tortues romaines qui avance tout doucement, et à partir de là, on relâchait du jeu, et c'était assez intéressant. Je pense qu'on aurait pu durer. Je pense qu'on s'est mafré. Je pense qu'on a été, des petits cons. Et ça, c'est regrettable parce que je pense que, des fois, j'y pense, j'ai toujours un peu de nostalgie. Je me dis, t'aurais dû fermer ta gueule, t'aurais dû, j'étais pas le seul, bien sûr, mais après, ça nous a pas réussi. La première gloire, notre première gloire nous a pas réussi.
On parlera évidemment d'autres gloires qui t'ont peut-être plus marqué ou en tout cas plus réussi. Il y a un homme qui vous fédère dans tout ça, c'est Bernard Laporte, le maître à jouer de cette équipe, le capitaine. Et lui se rappelle de quelque chose te concernant lors d'un match. Oui. On va l'écouter.
On a pu jouer un match en junior. On était champion de France avec Rabos 2 ans. Et pendant ce match, il mord quelqu'un. Et le mec, bien sûr, montre la morsure, d'abord crie, et montre la morsure à l'arbitre. Moi, nous, on n'avait pas vu que c'était ça. Et l'arbitre vient, il me dit, j'étais le capitaine, il me dit, écoutez, soit celui qui a mordu se dénonce, soit c'est vous qui quittez le terrain. Alors moi, je réunis les joueurs, je dis, attendez, mec, qui c'est qui a mordu? Et bien ça, il me dit, c'est moi. Donc, bien sûr, il est expulsé. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai revu l'arbitre, dernièrement, cet arbitre qui se rappelle comme c'était hier. Mais la phrase la plus marrante, c'est notre entraîneur qui était un entraîneur, qui est un catalan, de Canoëche. Il vient, il me dit, Bernard, il parlait comme ça, mais l'accent catalan, il me dit, Bernard, si tout le monde mord, on n'a qu'à lâcher les chiens.
Tu t'en souviens?
Oui, bien sûr, je m'en souviens. Ouais, c'était ma première expulsion un peu dure parce que c'était un match contre Agen. On était champion de France. Et là, j'allais pas jouer pendant 2 matchs. Mais à l'époque, on avait réussi à... les présidents s'appelaient, donc on avait réduit à un match, tu vois. J'avais mordu le mec, je me rappelle, un peu au-dessus de la fesse, dans les reins, mais j'ai vraiment à 100. Bon, j'ai coincé, pris par la patrouille. Et c'est des beaux souvenirs avec Bernard. Ouais, c'est des beaux souvenirs. On avait une belle équipe, hein, junior, tu peux pas savoir. C'est fou parce qu'en vieillissant, des fois, tu as des images davantage qui viennent que quand c'est frais. Tu vois, voilà.
Et les Raptous, c'est aussi ça, c'est non pas la violence, mais on y va, quoi. C'est-à-dire, on joue au rugby et on n'est pas là pour.
Oui, alors nous,
on a beurrer les sandwichs.
Ah, encore une fois, on n'a jamais été les meilleurs joueurs de rugby, mais il y en a qui se sont plus réservé le titre pour eux-mêmes. Donc, on ne peut pas nous empiéter sur leur qualité de jeu. donc, nous, on était un peu les manouvriers, les manouvriers de ce sport, quoi. Les maçons, ceux qui bétonnent, on aimait ce jeu, on aimait le rugby, on était passionnés de ce jeu, passionnés même encore, tu vois, je vais pas au stade parce que j'arrive pas à trouver ma place en tant que simple mec qui regarde. Alors, je regarde à la télé, je suis tout le temps passionné, tout le temps. Le rugby est magnifique, je le trouve de plus en plus beau.
Quand tu dis que tu n'arrives pas à trouver ta place,
C'est-à-dire dans un club, moi je suis plutôt un homme de terrain, tu vois. Je me suis régalé quand j'entraînais le PUC, quand il y avait la génération IHVD, quand ils étaient jeunes, quand j'ai arrêté de jouer il y a une vingtaine d'années, tu vois. Donc j'entraînais le PUC, j'entraînais le Racing en Pro D2. Après c'était des bons trucs, mais après j'ai décidé professionnellement de faire autre chose. J'ai décidé de faire autre chose. C'est peut-être pas pourquoi, peut-être inconsciemment, je pensais que j'aurais pas été le meilleur dans ce que je faisais, donc. Non, puis surtout j'avais envie de faire le comédien, j'avais envie de faire l'artiste, et tu peux pas le dire aux gens parce que ça fait très prétentieux. Voilà.
Et on en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. Nous sommes donc en 1991, les Raptous qui vont être de nouveau formés, ce sera un petit peu plus tard dans ta carrière et on y reviendra. Autre papier, deuxième papier dans la boîte à souvenirs avec Vincent Moscato, je te laisse piocher dans la boîte.
J'arrive mon poulet, un stade de France.
Eh bien ça tombe bien.
Ben
oui, le 16 mai 1998, première finale du championnat de France de rugby au Stade de France. Forcément, le Stade de France vient tout juste d'être construit. Stade français USAP, tu es le capitaine et tu deviens donc le premier joueur à soulever un trophée au Stade de France 2 mois avant Didier Deschamps pour la Coupe du Monde.
Et c'est sur cette transformation russe de Diego Dominguez que Monsieur Dimé siffle donc la fin du match. 34 pour le Stade français, 7 pour l'USAP. La joie des Parisiens et la détresse des Catalans. La joie de Marc.
Voilà.
Et sans doute la détresse de Thomas Livremont et surtout Majoral. Regardez, Majoral et Marc Livremont. Marc Livremont qui était le témoin du mariage de Majoral. Ils étaient tous les deux les flanqueurs de l'USAP l'an passé.
C'était quoi cette équipe du Stade français à l'époque?
Cette équipe, là, vraiment, sincèrement, j'ai joué dans des belles équipes, mais là c'était très, très, très costaud, très fort. Derrière, on avait un gars exceptionnel qui était Dominguez, on avait des centres, Keith Mitton, on avait Bolo, Emory, un Fidjien qui était à l'aile, qui mangeait tout. C'était quelque chose. Ouais, on avait Arthur Gomez, le TOS, à l'arrière. C'était un mec fort fabuleux. Vraiment, vraiment, on avait une belle équipe avec Marc Livremont. Quel joueur, Marc Livremont. Christophe Juillet, troisième ligne. Jean Cite Epinou, la troisième ligne des Rapetous. On était là, et on s'est bien éclaté, quelques années. Quelques années, parce que quand tu viens à Paris, dans un club qui est tout, où il y a tout à construire, c'est quand même, la construction, c'est quand même quelque chose de jouissif. C'est la seule saison que j'avais fait avant dans Pro D2. On est monté directement et on a été champion de France dans l'année. C'était pour te dire le recrutement de fou qu'on avait, mais un recrutement qui marche. Le rugby était obligé de bosser énormément. On a beaucoup bossé, on s'est régalé. Et ma foi, on y est arrivé. La construction, c'est toujours quelque chose de plus savoureux que d'arriver quelque part où c'est déjà construit.
Opéré par Max Guasini, évidemment.
Un mec exceptionnel. Mais Bernard aux commandes, qui était extraordinaire aussi.
On pense toujours que tu es de Gaillac, alors que tu es né à Paris.
Oui, je suis né à Paris.
Tu es parti ensuite à Gaillac, évidemment, dans le sud-ouest de la France. Pourquoi tu décides d'aller au Stade français? Parce qu'il y a tout à construire? Parce que tu vas rejoindre les Raptous? Parce que Max arrive à te convaincre?
Je joue à Brive à cette époque-là. Et puis, je te dis, le Aigle nous a marqué, et puis bon, avec Bernard, on a une... Alors, ça n'a pas toujours été facile, parce que tu sais comment c'est, quand c'était on a un peu de frangins, quoi, qui se sont disputés, qui se sont... Mais bon, voilà, il m'appelle, on est à Brive, ben j'ai dit, ok, Bernard Manco, je monte, Serge Monté, Philippe aussi, et puis voilà, tu vois, donc on a refait une histoire, on a réussi, ce qui est quand même rare, parce que dans la vie en général, tu fais rarement deux fois les mêmes choses, c'est dans la construction, c'était la même que Bègle, c'est-à-dire, tu pars d'un petit club, tu arrives à être champion de France, là, à nouveau, on était un peu bâtisseurs, tu vois, donc... c'était quelque chose de très fort aussi, très très fort. Et puis ensuite, je me voyais, j'avais 29 ans, 30 ans, je me voyais davantage finir ma vie à Paris par rapport au travail que je voulais faire. Voilà, parce que j'avais quand même d'autres ambitions que le rugby pour mon après-carrière.
D'autres ambitions, l'après-carrière, on en parle dans quelques instants. Serge Chimon, un invité dans cette émission, évidemment, la boîte à souvenirs avec Vincent Moscato. Serge Chimon qui compose les Raptous, il se rappelle de cette époque et du moment, évidemment, où vous rejouez enfin ensemble.
Et donc c'est la résurrection parce qu'on se retrouve encore une fois autour d'un personnage qui s'appelle Bernard Laporte, qui était devenu entraîneur entre-temps, et qui nous fait miroiter qu'il y a encore un truc à vivre. Et ensemble, c'est surtout ça qui comptait. On n'avait aucune ambition sportive. Moi, j'avais arrêté. Donc. Mais l'idée de revivre un temps soit peu ce qu'on avait vécu nous a fait tous basculer dans l'aventure. Autant 91 est un titre qu'on n'a absolument pas savouré parce qu'on était d'abord dans une tourbillon de conneries absolument cosmiques. Donc on a absolument profité de rien. On pensait que c'était tellement... On pensait pas. D'ailleurs, je crois que c'était plutôt ça le terme. On pensait à rien. Et quand tu te repointes au buffet, là, tu prends le temps de goûter à tous les plats. tu prends tout. Et c'est ce qu'on s'était dit dans les vestiaires. Quoi qu'il se passe, on a réussi. Et on va profiter de toutes les secondes, de toutes les couleurs, de tous les bruits.
Et là, tu as l'impression d'avoir assez profité, Vincent ?
Bon, on profite jamais assez. Quand t'es dans la jouissance, tu profites jamais assez. T'en veux tout le temps. Après, voilà, le problème, c'est que tu vieillis et tu bandes de moins. Donc automatiquement. Mais bon, tout ce qui a été pris après, ça a été beaucoup plus savoureux, beaucoup plus agréable, beaucoup plus. Même si la fin de carrière n'est jamais facile. Et là, parce que bon, ben, t'es meilleur à 20 ans qu'à 33 ou 34 ou 35. En général, c'est la vie qui est comme ça. Donc, c'était un bon moment. Et comme ça, je l'explique. C'était brûlé les ailes en 91, bêtement, je sais pas pourquoi, j'ai aucune analyse là-dessus. D'ailleurs, comme il dit, il n'y a pas d'analyse à faire, c'était plutôt de la bêtise à la tonne. Et là, c'était mieux, beaucoup mieux. Puis, comme je te dis, on était à Paris, c'était agréable, Paris.
Autre papier avec Vincent Moscato dans cette boîte à souvenirs. Voilà, nous avons donc parlé des Raptou à Bègle.
Sud Radio.
Au Stade Français. Sud Radio. On est en 2005.
Ouais.
Radio. Tu es donc à Sud Radio. Mais tu rencontres aussi François Pesenti, le patron d'RMC Sport.
Ouais.
Et là, il se passe quoi ?
Là, il se passe que François me dit que ce serait bien que tu fasses des essais, que tu viennes. Je sais que tu es sur Sud Radio. Alors moi, j'ai dit, je cartonne sur Sud Radio, je cartonne. Alors je commence à mentir parce que j'ai une émission par semaine. J'ai dit, c'est un véritable carton depuis 6 mois. Mais tu te fous de moi ou quoi ? Je te vois même pas là dans les sondages. Vous êtes à 500 000 km. Là, j'ai dit, je cartonne. J'ai dit, j'aimerais bien venir là. Elle me dit, bon, on va voir tout ça. Mais il dit, t'es libre de contrat. J'ai dit, attends, je te ferai pas cette proposition, François. Donc il me dit, on fait les essais là, lundi ou mardi ou mercredi, je sais plus. Puis je dis, bien sûr. Bien entendu. Et Sud Radio, il m'écoute, j'étais sur RMC, j'étais en contrat avec Sud Radio. Donc, le Sud Radio appartenait à Pierre-Yves Revol, qui a été bon camarade, et qui m'a dit encore une connerie. Bon, ben, c'est pas la première. Tu nous as habitués depuis 15 ans dans le rugby à en faire tout le temps, tu continues. Voilà. Donc, Pierre-Yves Revol, bon, ben, m'a lâché, bien entendu, parce que c'était un contrat, de saisonnier, comme on fait dans la radio, dans les médias. Donc, il m'a lâché. Puis, j'ai attaqué avec François dans des émissions comme Viril Mekowait, avec Yann Lavoie le matin, c'était génial, avec Sarah Piposki et Yann Lavoie à Vaumarc. Et voilà, j'ai passé du bon temps, j'avais une émission, deux émissions, après j'en ai eu trois, puis bam, l'année d'après, en 2006, je commence à attaquer
Radio Moscato,
là on devient dans une quotidienne, au moins quatre fois par semaine, pas toujours une quotidienne, parce que parfois le vendredi, comme il y avait des matchs, je faisais souvent lundi, mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi, c'était il y avait tous les sports, puisqu'il y avait commencé à avoir des matchs de foot, de rugby, le soir, c'était le début du week-end, et donc là j'attaquais 10h minuit, c'était bien, tu vois, c'était ma reconversion. J'étais avec Adrien, on était tous les deux, lui il était derrière, il me voyait arriver des fois dans des états, parce que 10 heures ça me laissait le temps de faire l'apéritif. Et
Adrien
m'appelait tout le temps, il me disait bon, alors je suis monté, je dis ouais, je suis chez moi, pim pam, je suis arrivé des fois 10 heures moins 5, mais rond, alors on a ri parce que j'étais derrière les mecs qui étaient à la frontière espagnole, je faisais klaxonner tous les routiers, on riait, tu vois, c'était un changement de vie, c'était le début de ma vie professionnelle et artistique, parce que la radio, je prends ça pour un art.
Évidemment, du divertissement.
L'artistique, ça va de 1 à 20. J'ai de l'humilité. Disons que 2 sur 20 dans l'artistique. Voilà.
Oui, parfois, on peut aussi sortir des bonnes notes, mais on sort pas toujours des bonnes notes, évidemment.
Des
bonnes notes.
Des fois, on dépasse 6, 7, mais là, on sait qu'on est en surchauffe.
Tout le monde connaît forcément cette émission, le Super Moscato Show, que tu animes du lundi au vendredi de 16h à 18h, qui existe d'ailleurs depuis 2007. Hein. Incroyable longévité, 22 octobre 2007. Tu n'as pas commencé la radio avec cette émission, avec Viril Mekowait, à Vaumarc ou encore Radio Moscato. Si tu écoutes une émission de l'époque, tu te trouvais comment ?
Ben, je ne les écoutais pas, mes émissions, parce que je n'aime pas me trouver.
Et avec le recul ?
C'était moins bon, bien entendu, parce que l'émission, ce travail de radio, ça demande beaucoup d'entraînement. Faut jouer, faut avoir du temps de jeu pour devenir bon.
Je vais te faire écouter un passage quand même. Nous sommes en 2005-2006, Viril Mekowait, une de tes premières radios à RMC. Et déjà, tu découpes le 15 de France, alors entraîné par Bernard Laporte, ton ami. Voilà ce que tu vas dire. Et il y a peut-être moins de gouailles, mais franchement, c'est déjà très très bon.
Je vais te dire un truc. Je vais te dire bravo pour les mecs comme ça. Ils ont mieux géré leur carrière. Pour l'équipe de France, c'est machin. On les adore. Bien sûr qu'on les adore. Qu'on veut qu'ils gagnent. Qu'ils soient champions du monde, bien entendu. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous? Tu veux qu'on leur tire les pompes? Quand il y a un qui fait un mauvais match, on leur dit quand il fait un bon match, on dit bravo. T'as été super, t'as été magnifique. Et moi, j'aime quand t'es magnifique. Et quand tu fais un match de pompe à vélo, il faut le dire aussi. Parce qu'il faut de la choune. Ça veut dire qu'il faut avoir une chance inouïe. Tu crois qu'Eric, il en mérite pas 25? On en a vu passer à côté de nous. Des trompettes quand on trempe de sélection. Des mailles de merde, des lèches-culs. Qu'on fait des pipes aux entraîneurs comme s'il en pleuvait.
Tu te trouves comment?
J'étais énervé.
Je sais pas,
parce que la plupart des mecs qui ont 25-30 sélections, ils les méritent en général. Et donc là, je devais être énervé. Oui, je devais être énervé. Oui, alors voilà. Le problème de la radio, c'est une question d'humeur. Tu vois, ça va mal dans ta vie, ça se ressent à la radio. Ça se va bien dans ta vie, ça se ressent à la radio.
Alors pourquoi ça marche le SMS, le Super Moscato Show depuis 2007.
Bah après, tu sais, on cherche, tu sais, moi j'ai... Bah, je sais pas, c'est un temps qui est particulier, c'est un temps qui est différent. Différent, et les gens savent... Tu sais, la plupart du temps, les gens disent « Dans mon émission, il n'y aura pas de langue de bois. » Quand t'entends ça, ça veut dire que le mec ne va rien dire, il va s'écraser comme une grosse merde. Parce que c'est une merde. En général, quand t'emploies des mots... Tu sais, on parle toujours des choses que l'on n'a pas, à outrance. C'est de la générosité. D'ailleurs, t'es généreux, t'es pas généreux en vérité, mais tu fais semblant de l'être parce que c'est de bon ton. Il faut d'ailleurs, y a eu toute un parti politique qui a été là-dessus, tu vois, pendant 30 ans, c'était le parti des mecs au-dessus qui sont plus généreux que toi. Donc, t'es con. Et puis en plus, intellectuel. Je dis les choses, et puis moi, je me mouche pas, puis je m'en fous surtout. Toi, quand tu arrives à imprégner par ta voix, par ta personnalité les gens, ça, tu sais que ça peut rester longtemps. Et la preuve, ça fait 13 ans.
Tu parlais d'un parti politique avec des intellectuel. On en connaît un, justement, qui t'accompagne d'ailleurs depuis 2007. C'est ton compagnon.
C'est mon pote, ouais.
C'est Pierre Dorian. Pourquoi ça marche, le Super Moscato Show? On lui a posé la question.
C'est mon poteau, Pierrot.
Voici sa réponse.
Parce que lui, il a un talent fou. Il a un truc incroyable qui est indéfinissable entre... je sais pas comment dire ça. Entre, j'irais, entre le charisme et l'érudition. C'est-à-dire que il se cultive beaucoup par lui-même. Alors après, c'est tout, ça se mélange avec sa dinguerie personnelle et ça donne un cocktail fantastique parce que il est plein de gaz, plein d'énergie. Il a surtout un parler, une faconde unique et au-delà de ça, il s'intéresse à plein de choses. Le tout mélangé, c'est explosif, quoi.
C'est un bel hommage.
Ah ouais, c'est. Là, mon Pierrot, tu c'est, ouais, c'est sympa. Ouais.
Il est de gauche, mais il est sympa.
Wow. Je le chauffe, mais ça, des fois, il doit plus. Parce que des fois, ça tombe comme ça, suivant, encore une fois, mon humeur. Je sors de truc, je dis, mais qu'est-ce que t'as attaqué, Pierrot, encore? Pierrot, c'est un mec qui est... Je crois que, tu sais, il y a les justes. Pierrot, c'est injuste, tu vois, il aurait partagé la moitié de son repas. Alors, il est coléreux, il casse les couilles, il joue aux chevaux, tout, ça m'agace, ça, tu vois. Mais c'est injuste, il ne supporte pas, puis il est généreux. Lui, c'est le pignon, c'est le maître d'œuvre, c'est le chef d'orchestre de cette émission, c'est un mec fabuleux.
Allez, la boîte à souvenirs, ça continue dans quelques instants avec toi, Vincent Moscato. On se retrouve dans une poignée de secondes sur RMC.
RMC, 20h-21h,
la boîte à souvenirs.
De retour dans la boîte à souvenirs avec ce soir Vincent Moscato, notre invité. Vincent, je t'invite à repiocher un papier dans cette boîte à souvenirs.
Aéroport de Toulouse-Blagnac.
19 août 1991. Tu es attendu à l'aéroport de Blagnac avec le 15 de France pour préparer la Coupe du Monde.
Ah oui, oui.
Qui aura lieu en France et en Angleterre. Mmh. Tu viens d'être champion avec Bègles-Bordeaux. On en a parlé il y a quelques instants. Et puis tu vas chercher Serge Chimon pour te rendre à cet aéroport de Toulouse-Blagnac. Ça se passe comment?
Ça se passe déjà, en toute humilité, j'avais acheté une Porsche rouge mais extraordinaire que j'ai jamais payée d'ailleurs. Le mec, je l'ai ramené un an après, je l'avais pas payé, pour te dire le con que j'étais. Et je vais le chercher, puis on n'a jamais été... Je sais pas, te définir les choses, c'est qu'on sortait d'une tournée avec l'équipe de France où bon, on n'avait pas la côte. On était cons, on faisait tout non plus pour pas avoir la côte. Hein, je veux te dire, on était quand même assez effrontés. Voilà, donc je vais le chercher. Puis on a décidé de partir en vacances à Nice. On n'a jamais été au rendez-vous. On n'a pas fait la Coupe du Monde 91, que je pense on n'aurait pas fait. C'est en partie pour ça qu'on n'a pas pris des énormes risques non plus. Tu vois, parce que il y aurait eu la Coupe du Monde en jeu. On y aurait été, on n'est pas fous non plus, mais l'idée était jetée, tu vois. Donc,
je ne sais pas si c'est une légende, mais en tout cas, vous découvrez le middle, et dans le middle, il y a la liste des 26 joueurs pressentis pour disputer le mondial. Et évidemment, vous ne faites pas partie de cette liste.
Oui, mais c'était arrangé. Enfin, c'était pas arrangé, on avait senti que.
C'était fait, quoi.
C'était fait, oui, voilà. Donc les mecs, après, on dramatisait, tu sais comment c'est, ils ont dramatisé. Nous, on savait très bien qu'on pétait, tu vois. On n'était pas dans les papiers. Et voilà, on était sûrement moins bons de ceux qui étaient sélectionnés, puis pour la ligne. Voilà, c'est tout.
Donc, tu vas chercher quand même Serge Chimon avec cette magnifique voiture rouge.
Ouais.
Vous partez en direction de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et puis à un moment donné, vous mettez le clignotant.
Voilà.
On va plutôt à Nice.
Voilà, on va à Nice.
Il a de la famille, je crois, là-bas.
Ouais, il a ses parents là-bas. Ouais. Et donc, on a passé quelques jours à Nice. bon, voilà, ça a gueulé. Alors bon, t'imagines, c'était pas les médias comme maintenant, mais bon, là déjà, ça fait du tapage quand même. Hein. Ça fait parler de tapage à la radio, les mecs, ils disaient, ils sont pas là, tout ça, on écoutait là. Voilà, c'était un peu Bonnie and Clyde. On s'était pris encore une fois pour d'autres. C'était pas très bon. C'était quand même une décision très, très moyenne quand même.
Bon, rassure-moi, vous avez quand même prévenu le staff.
Non. Non, on n'est pas prêts.
Est-ce que tu sais qu'ils ont attendu 22 heures, pas l'heure, hein, ils ont attendu 22 heures, montre en main, pour avoir des nouvelles de vous?
Je ne savais pas.
Ouais.
Je me rappelais pas. Mais bon, tu sais, j'étais un peu, comment te dire, un peu sans réflexion, quoi, un peu un animal sauvage à l'instinct. Et voilà, et vexé en plus que je faisais pas partie du truc, puis j'avais 25 ans, j'avais pas beaucoup d'éducation, pas beaucoup de choses comme ça, j'ai dit une chose dans ma vie, je vis mieux maintenant que quand je joue au rugby.
T'étais mieux dans ta tête aussi?
Je suis mieux dans ma tête, je suis moins en problème avec tout le monde, je suis en problème avec moi-même, j'ai beaucoup mieux vécu après le rugby que pendant le rugby. Le terrain par lui-même, c'est jouissif, mais ma vie autour, ma vie était compliquée.
Alors après cet épisode, Serge Chimon ne reviendra plus en équipe de France. Toi, tu attendras 92, ça va pas très bien se passer, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. En tout cas, sur cet épisode de l'aéroport Toulouse-Blagnac, Serge Chimon a un petit truc à te demander.
Nous avions rendez-vous, me semble-t-il, quelque chose, c'est un ordre de grandeur, comme 10 heures à Blagnac. Et on s'était donné rendez-vous chez moi, à Bordeaux, je crois vers 7 heures, pour avoir un peu de marge. Tu t'es pointé à 10h30 avec une Ferrari rouge, ce qui ne nous a pas permis, malgré la qualité de la bagnole, d'être à l'heure, évidemment. Et je t'ai jamais posé la question, mais à qui avais-tu volé cette Ferrari rouge?
Oui, c'était une Ferrari, en vérité. C'était à Roger Genton, qui était un pote à nous. Et voilà, c'était une Ferrari rouge, c'était un truc de fou.
Remarque, cette voiture rouge pour aller sur la Côte d'Azur, c'est mieux qu'aller à l'aéroport.
Ouais, mais j'étais un cancre, puis en révolte permanence. Souvent, je le dis pour déconner, mais si vous voulez faire une belle carrière, tu regardes ce que je fais, ne le refais pas, tu vois. Le mauvais exemple de le mec turbulent, quoi, qui use les entraîneurs, qui fait chier au bout d'un moment, tu vois.
Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Vincent Moscato.
Le 24 janvier 2001.
24 janvier 2001, c'est quoi? C'est la sortie de quelque chose.
C'est Vercingétorix.
C'est la sortie du film Vercingétorix, la légende du druide roi.
Ouais.
Un de tes premiers films?
Oui, tout à fait. Oui, j'avais fait un film avec De Broca. J'ai joué à Beigle, j'avais fait Regarde-moi quand je te quitte avec Patrick Chenet. Et après, c'était celui-là, dans mon rôle de composition, Moscato. Un grand rôle.
Petit extrait, juste pour écouter.
Pour savourer, tu devrais dire.
Savourer Vercingétorix.
Nous voulons Vercingétorix comme chef.
Voilà, c'est court, mais c'est bon.
T'as pas la version anglaise, hein. Là, t'aurais rigolé. Hein,
alors, ça. C'est un film historique à la base, ouais. Qui doit être un énorme carton. Le budget, 80 millions de francs, je crois.
Ouais, à l'époque, c'est comme si tu disais maintenant 20-30 millions d'euros, quoi.
Ouais, c'est un véritable blockbuster français. Mais alors, c'est devenu une comédie. C'était pas du tout un film historique. Pourquoi?
C'est blockbuster, hein. C'est un truc de boucher. C'est pas bon.
Mais pourquoi c'est pas bon?
C'est pas bon parce que c'est pas bien fait, voilà, tout simplement, parce que l'histoire va pas, le casting est pas bon, c'est la version du scénario n'est pas bonne, c'est trop lent, c'est trop... On comprend pas, le trucage sont pas bons, mais rien ne va, les perruques, on dirait Mylène Farmer, tu vois, on dirait la chorégraphie de Mylène Farmer, c'est les perruques du film. C'est pas bon, qu'est-ce que je te dise? On fait des bons matchs, puis on en fait des mauvais, et celui-là n'est pas le meilleur qu'a fait Jacques Dorfman, qui a fait des trucs fabuleux, comme Gaduc, qui a produit beaucoup de films. Il faut savoir que Jacques a produit L'Armée des Ombres de Melville, qui pour moi est mon film préféré.
coproducteur Denis Charvet dans l'aventure.
Le grand nœud.
À quel moment tu sens, parce que tu as passé 2 mois en Bulgarie pour ce grand. À quel moment tu sens quand même que ça sent la raclette?
Ben non, parce que tu sens pas, parce que moi je suis enthousiaste. Je me dis, celle-là, tu vas décoller, tu vas être repéré pour Hollywood. Avec ce film-là, moi je m'appliquais, toutes les scènes, je te jure, je bossais. Bon, j'avais 3 lignes à faire par texte. Maintenant, je saurais que c'est une daube au bout de 2 heures. Mais à l'époque, je me rendais pas compte, j'avais pas de repère de film. Je n'avais jamais fait. Et puis surtout ce genre de film où tu avais des chevaux, des trucs. Donc je n'avais aucun repère. Donc je ne savais pas.
Alors le premier montage, oui, on est mal. Mais les avant-premières, ça se passe comment?
C'était catastrophique, le pauvre Denis. Jack, tout le monde s'échappait. Donc il n'y avait que Denis qui montait en haut sur le truc. On pleurait de rire. Les mecs rigolaient. Les mecs riaient.
Pour un film historique.
Pour un film historique. C'est-à-dire les mecs, en plus, rien que sur le. Je crois qu'on fait 400 000 entrées les premiers jours. Parce que sur le nom, Versailles Gétorix.
La première semaine, je crois que c'est 250 000.
C'est énorme. Parce que sur le nom, Versailles Gétorix, personne ne peut s'imaginer que c'est une énorme bouse. Et là, c'est une cata. Mais par contre, on a passé 2 mois en Bulgarie. On faisait chambre ensemble avec Denis, tu vois. On avait le même appartement. On avait un appartement en plein Sofia. On s'est régalé.
Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Vincent Moscato, toujours sur AMC.
Tarte aux fraises.
Ah! C'est quoi ça?
Alors, c'est pas du tout tarte aux fraises. J'adore les fraises. J'adore les tartes.
Et je te dis 1995, Brive.
Ah ouais, c'est une anecdote. Une anecdote où je jouais.
Non, tu vas pas la raconter, c'est Patrick Sébastien, qui est évidemment président de ce club de Brive, qui va nous la raconter pour toi.
Je me suis retrouvé un jour président, donc être obligé d'avoir de l'autorité, à vouloir lui expliquer qu'il fallait qu'il joue pilier, et il ne voulait pas. Donc il y avait tous les joueurs autour de moi, et je lui ai dit, dimanche, Vincent, tu vas jouer pilier. Et il m'a regardé droit dans les yeux en me disant, dimanche, je ne peux pas, ma tata fait une tarte aux fraises. J'ai réfréné très fort mon envie de rigoler, parce que j'avais vraiment envie de rigoler, pour faire le président méchant, qui tu n'as pas le droit de dire ça, etc. Ça, c'est vraiment un truc.
Quelle répartie déjà?
C'est pas là-dessus qu'on est le plus maladroit sur la répartie, Patrick, c'est exactement ça. J'avais joué avant pilier pas mal de temps, et puis là il y a des mecs, des piliers qui revenaient de blessure. J'ai dit moi je jouais talonneur. J'ai dit je reviens talonneur. Et Patrick il dit non mais enfin c'est là. Patrick est avec l'entraîneur, donc il laisse parler l'entraîneur, mais c'est l'autorité Patrick. L'entraîneur dit Vincent machin. J'ai dit non, ma tata fait une tarte aux fraises. Je pourrais pas venir dimanche. C'est trop important, je peux pas le louper.
T'y allais ou pas? Je crois pas. Hein.
Non, en plus il m'a suspendu, je crois 15 jours. Patrick il a été obligé de me suspendre. C'était génial, Patrick. C'est le cas de dire, c'est génial. Patrick, c'était un bon mec quand on était entraîneur, quand il était président. On a vécu des bons moments, vraiment des bons moments.
Incroyable cette saison avec Brive, qui est un club familial. Tu restes un an dans ce club. Tu fais la finale du championnat et tu remportes le challenge du manoir.
Belle finale. C'était super. C'était super, et puis comme bien sûr que je gère bien ma carrière, au lieu de rester à Brive un an de plus, je pars là et je suis pas champion d'Europe. Brive est champion d'Europe. Non, mais quand, tu veux faire que des choix de merde. J'ai fait que des choix de merde dans ma vie sportive. Mais que de la merde. Excusez-moi d'être vulgaire, mais des fois, je me dis, mais tu le faisais exprès. Tu voulais te faire mal. En plus, c'est du sadomasochisme de faire des mauvais choix, de dire n'importe quoi. C'est comme ça.
Est-ce que tu mens ou pas, Vincent? Parce que quand tu parles de la tarte aux fraises, tout ça, voilà, on ne sait jamais vraiment quand tu dis la vérité.
Je voulais lui dire surtout que je ne voulais plus jouer au pilier. Voilà, je lui faisais une image en lui disant j'ai ma tata qui fait une tarte aux fraises, je ne veux pas venir.
Mais t'es pas un menteur.
Oh, je suis pas un menteur, si, ça m'arrivait de mentir, de galéger. Non, je crois pas, je suis pas un menteur né, je suis pas un mytho. Quoi, voilà.
Serge Chimon, on l'écoute.
J'avais une voiture, une Lada. Et bon, moi, j'avais une. À l'époque, j'avais une Super 5 dégueulasse qui était en panne. Et on fait la route ensemble, je ne sais pas pour aller où, si c'était pour aller à un match ou à l'entraînement. Et je commence à l'entretenir sur mes problèmes de je ne sais pas quoi, de carbu. Et ce con, pendant une heure, il me fait croire qu'il est garagiste. Garagiste spécialiste des diesels Lada. Et donc, je lui parle de mon carbu, de la Super 5. Il me dit, oui, tu dois faire ci. Et puis, au bout d'une heure, évidemment, je vois bien que son discours n'a aucune cohérence, ni mécanique, ni rien. Et voilà, bon, c'est une heure, mais à pleurer de rire, à pleurer de rire, à pleurer de rire. Et ce type-là, pendant toutes les années où on a joué ensemble, je pense que si tu comptes le temps, je pense que le temps passé à dire la vérité doit s'évaluer à moins d'1% chez ce type-là. Voilà. Tout le reste, c'est des conneries.
Tu voudrais lui dire quoi et lui répondre quoi?
C'est mon pote, Serge. C'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup. Et je l'embrasse, bien sûr, parce que c'est vrai. J'avais raconté, j'avais même poussé le truc. J'ai fait, allez, ouvre-moi ce capot. On était arrivé à l'entraînement. J'ai ouvre-moi ce capot. Alors, c'est là que ça. Et puis là, j'avais explosé de rire. Et là, il m'a dit, connard, bon, mon mec, de tout. L'autre, il y croyait que j'allais lui dire. Il me disait, ça va me goûter 500 balles. J'ai dit, ça va te coûter rien du tout. Je vais te faire ça. Hein. Ouvre-moi le capot. Alors, il m'avait ouvert le capot, tu sais. J'ai faisais, vas-y, passe-moi là. Il n'avait rien. Il me dit, j'ai pas les pinces. Ah, j'ai dit, si t'as pas les pinces, je peux pas travailler. Hein. Après, j'ai rigolé. J'ai dit, non, je connais connard. J'ai même pas changé ma roue de bagnole.
Voilà, et pour séduire ta femme, est-ce que tu lui racontais aussi des histoires?
Non, c'est sûrement non. Non, oh, bah non, bah parce que là, on est dans le sérieux, on est dans le. Non,
c'est étonnant parce que c'est pas du tout ce qu'elle nous dit. On écoute Christelle.
Ouais, ça chauffe.
Au début où j'ai connu Vincent, moi je marchais pas mal en montagne, j'aimais bien, j'avais des chiens pas tous les Pyrénées, j'allais marcher avec mes chiens, enfin voilà, je prenais du plaisir à ça. Et donc Dieu, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu te racontes ta vie. Donc Vincent me racontait que avec Brive, comme avec le Stade Français d'ailleurs, avec Bernard Laporte, ils allaient s'entraîner au cirque de Gavarnie. Et donc il me dit, viens, je t'amène au cirque de Gavarnie, on va refaire le circuit que je faisais avec mes potes. Ils connaissaient le village, et puis ils voulaient m'impressionner, je suppose, me faire plaisir et m'impressionner. Et là il y a un ruisseau, tu vois, et Vincent me dit, tu vois, dans ce ruisseau on a l'habitude de se baigner en fait. Et il se met en caleçon et je lui dis, mais Vincent, l'eau est glacée quoi. Et il me dit, mais non. Et il me dit, viens. Alors je lui dis, non, je vais pas me mettre dans cette eau. Et là il se jette à l'eau et il en ressort violet. Il avait joué le tout pour le tout, alors que plus jamais. Après j'ai découvert que tout ça c'était pas lui en réalité. Que lui il voit une rivière et il me dit, non, mais surtout on passe à côté quoi, surtout on se met pas dedans.
Et Christelle nous raconte aussi que tu as escaladé cette montagne. Et tu lui as dit, mais si, ça passe, on va le faire tranquillement.
Je suis vertige, non, c'est un mur. Parce qu'à un moment donné, je l'amène à la montagne. Je dis, attention, moi, je connais bien la montagne. Tu vois, là, on allait s'entraîner, tout ça. Je me perds. Alors, je voyais des traces de trucs. Je dis, tu vois, ça, c'est des traces de marmotte. Enfin, je ne sentais que des conneries. Seulement, au bout d'un moment, on est arrivé à une falaise. J'étais pris de vertige. Donc, c'est elle qui m'a dégagé. Donc, la première défaite. On redescend en bas. Il y avait un lac avec une eau à 2 degrés. Je dis, là, tu vois, là, il faut se baigner, ça fait du bien. Je plonge dedans, violet, presque crise de tétanie. Là, elle m'a chargé dans la bagnole. Elle m'a dit, bon, t'arrêtes. Là, c'est bon. Moi, je t'aime.
J'ai compris le personnage.
Bon. Non, mais je me rappelais plus de ça. Mais bon, voilà, c'est de la bêtise en barre.
Mais c'est mignon en plus.
Ouais, c'est mignon. Ouais. C'est mignon. Au bout de 5-6 heures en montagne, quand tu sais plus où t'es, ça crois-moi, ça l'est moins. Et que t'es en train de mentir, c'est un peu curieux.
La boîte à souvenirs avec Vincent Moscato. Un autre papier pour toi, Vincent. Vas-y, je te laisse piocher dans la boîte.
Ah oui, d'accord, oui. Un autre papier. Bah ouais, 15 février 92, je savais bien que ça allait finir par là, quoi.
Ah bah là, c'est toi qui l'as tiré au sort le dernier. Hein. Là, j'y peux rien.
Ouais, j'y peux rien, j'ai tiré au sort. C'est curieux que ça arrive en dernier, ça. Mmh. C'est le. Bah ouais, c'est la fracture de ma vie, quoi. Hein. Fracture de ma vie sportive, mais quand même aussi de ma vie personnelle. Hein. Donc.
Nous sommes le 15 février, donc 1992, le tournoi des 5 nations. Angleterre-France, plutôt France-Angleterre au Parc des Princes. C'est ta quatrième sélection, Vincent, et il se passe ça.
Attention, c'est Vincent Moscato qui se fait appeler par Monsieur Eddy. Vincent Moscato qui a dégoupillé.
Oui, ça c'est pas bien du tout.
Et Vincent Moscato qui se fait sortir par l'arbitre. Emmené par Philippe Saint-André. C'est la deuxième fois dans l'histoire du rugby que deux joueurs se font sortir en même temps dans un même match.
Ça te fait quoi en écoutant ça?
Bah, ça me fait pas grand chose, mais bon, c'est jamais agréable. Voilà, c'est jamais agréable quand on m'en parle. Suivant l'humeur que j'ai, ça peut être très triste. Même encore, tu vois, 30 ans après, c'est très triste. Mais voilà, après, le temps est passé. J'ai toujours un peu de rancœur par rapport aux hommes, par rapport plein de choses, par rapport aux petites gens. Quand je parle des petites gens, bien entendu, ne confondez pas, c'est les petites gens qui étaient autour de l'équipe de France.
Ouais. Et au pouvoir de l'équipe de France.
Au pouvoir de l'équipe de France, bien sûr.
Et en tout cas, pour terminer sur une note un peu plus légère, après ce carton rouge, le soir même, tu as quand même décidé d'honorer ton défi avec Jean-Baptiste Lafont. Est-ce que tu t'en rappelles?
Ah oui, je me rappelle. Oui.
T'as fait quoi?
Une connerie de plus.
Juste après le carton rouge.
Ben oui, parce que c'était pas signifié que la tenue numéro 3, qui était le smoking, donc le smoking du sergent Garcia, mais ils n'avaient pas notifié la couleur depuis un siècle. Il n'y a pas de couleur marquée dans les trucs du rugby.
Vous êtes les deux en blanc, ouais. Et tu oses le faire même après ce carton rouge, c'est incroyable.
Ben ouais, je le fais après ce carton rouge. Bon, voilà, c'est n'importe quoi. Encore une fois, c'est n'importe quoi, c'est à qui mieux. Mais bon, à l'époque, je saisis pas l'importance de ce carton rouge parce que je pense que je vais me la manger pendant 6 mois, 8 mois, je vais me la manger, l'été arrive, bon ben l'année d'après je serai resélectionnable et pendant ce temps-là, tous les mois je boxais, donc je faisais la muscu, je m'entraînais comme une bête, je me suis dit bon ben ça va rentrer, il y a les tests de novembre qui arrivent, d'octobre qui arrivent, ça va le faire, tu vois, je vais être à nouveau remis dans le groupe, redémarrer, puis après à moi de me démerder. Et puis, j'ai 54 ans, mais ils m'ont toujours pas appelé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quoi.
Même le portable ce matin, non, il a pas
appelé. Je regarde. Non. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont m'appeler. Ils vont m'appeler pour une médaille posthume, peut-être.
Merci beaucoup, Vincent. La boîte à souvenirs, c'est terminé pour toi. Mais attention, tu peux rester encore assis, car on va continuer. On va sortir de boîte dans quelques instants. Et ce sera à suivre sur RMC, avec Vincent Moscato.
RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
Pour cette sortie de boîte, nous allons te faire écouter quelques passages de proches, de joueurs que tu as connus, de gens que tu aimes également. Premier message, Bernard Laporte, il a quelque chose à te dire.
Il fait partie de la famille, il avait ça. Il a dormi à la maison jeune. Je dis souvent, j'ai trois frères et des sœurs, et une sœur de sang, mais j'ai un frère aussi à côté, c'est lui, ça c'est une certitude.
C'est un frère, Bernard?
Ouais. Oui. T'es une connard, toi, je te le dis.
Tu es forcément ému. Bernard, que tu as connu tout petit, en plus. Tout petit.
Ouais, Bernard, oui, bien sûr.
Vous connaissez petit Gaillac depuis que vous êtes membre.
Ouais, on s'est connu gamin. On a fait notre histoire ensemble. Et puis, je suis vachement admiratif de ce qu'il fait. Puis, il est président, il était ministre. Mais c'est un phénomène. Il a une force en lui qui est incroyable. De force en lui, incroyable.
Une question maintenant de ton compagnon du SMS. Pierre Dorian, tu vas avoir une question très intelligente. À toi de répondre.
Donc Vincent, je voulais savoir, c'est quoi le point commun entre un terrain de rugby et une scène?
Pourquoi tu demandes ça?
Mais parce que c'est souvent ce qu'on me demande. Dans la vie. Qu'est-ce qui est le plus dur? Jouer au rugby ou rentrer sur scène? J'ai dit, je réponds à des conneries pareilles. J'ai dit, qu'est-ce qui est le plus dur? Je sais pas, moi, le plus dur, c'est de faire les choses, mais il n'y a pas de plus dur. Et donc, souvent, ils en rigolent. Alors, Vincent, un interview, est-ce que la scène, c'est pareil que le terrain de rugby? Voilà, bon, je serais pas Pierrot, les deux mon capitaine.
Bon, sache qu'il a posé une vraie question sérieuse, c'est bon. Maintenant.
Donc Vincent, souvent dans l'émission, on rigole sur le fait que à 20 ans, t'étais insupportable et que si tu te rencontrais aujourd'hui à 20 ans, tu te mettrais des claques. Mais au final, est-ce que le Vincent Moscato, qui a 20 ans, tu l'aimes quand même au fond de toi?
Bah ouais, je l'aime parce que bien sûr, mais la vie n'était pas la même, tu vois. Je vais te dire, la vie, moi j'ai vécu, je me régalais, j'étais à Gaillac dans un village. Je m'aperçois la présence d'un père, c'est important, tu vois. Voilà, moi j'ai perdu mon père, j'étais gamin, et je pense que même si on le dit pas en vieillissant, quand tu le deviens, je pense que c'est important, et d'être le cancre du village, c'est pas toujours très bon. Donc oui, bien sûr que j'ai aimé le Vincent de il y a 20 ans, mais il y a des fois, il me fait chier, quoi, tu vois, parce qu'il a quand même, il s'est bouffé beaucoup de choses et il s'est bouffé beaucoup de choses.
Patrick Sébastien, un message pour toi maintenant.
J'ai pas de question à lui poser, j'ai juste à lui dire que j'aime très très fort,
que je suis vachement fier de ce qu'il fait et qu'il faut qu'il continue à rester lui-même. Voilà, mais ça, c'est même pas la peine de lui dire. Je vois pas un type comme ça devenir autre chose que lui-même. Vincent, tu es vrai. Voilà. Et dans le monde du showbiz que tu connais maintenant par cœur, tu t'apercevras que les gens vrais, eh ben, il y en a pas des masses, figure-toi. Il y en a à peu près autant qu'un concert de violoncelle à la télévision le soir en prime time.
Ah, merci. Bon, c'est mon pote Patrick et je sais qu'il en a chié beaucoup. Il en a beaucoup chié parce que c'est un vrai artiste, Patrick. C'est un mec qui imite. Je sais pas si vous vous rappelez les imitations. Les jeunes ne s'en souviennent pas, mais quand il était imitateur, il était génial. Il est capable de bien chanter, de faire des claquettes et de se présenter des numéros qui étaient incroyables. Et il a souffert. Il a souffert et je l'embrasse fort.
Tu l'embrasses. Est-ce que tu penses que Fred Pouillet, ton producteur, ton co-auteur, est capable de te poser une question ?
Bon, ça va être une catastrophe.
On l'a recommencé 8 fois.
8 fois,
mais bah, on a réussi à sortir ça.
Vincent, tu sais, je suis très fan de ce que tu fais sur scène, entre autres. Jusqu'à quel âge tu comptes aller ? Moi, je pense que tu peux tenir 80, 90 ans sur scène. Moi, j'y crois. À quel âge alors ?
Il y croit parce qu'il va aussi toucher.
Quel fumier ! Non, mais oui, mais c'est mon pote, Fred. Pince sans rire, drôle. Une bonne collaboration. En-delà de la collaboration, bonne amitié, bien sûr. Et quand il me dit ça, bien entendu, c'est qu'il ne veut pas que j'arrête parce qu'il touche des droits d'auteur, tu vois.
Il y a la caillasse qui tombe à la fin du mois.
Ben oui, pardon. Donc il a envie que je joue jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi, jusqu'à mon dernier souffle. Voilà, bon, je ne suis pas prêt d'arrêter, t'inquiète pas, Fred.
Un dernier message à te faire écouter, Vincent Moscato, dans cette sortie de boîte. C'est évidemment ta femme, Christelle, qui a quelque chose à te dire.
Ma petite
écoute,
biche.
Vincent, j'ai envie de te dire que tu es mon Père Noël tous les jours, que tous les jours de l'année, tout le temps, parce que pour moi et pour les enfants, et parce que tu nous choies, parce qu'on se marre, parce que tu oublies souvent les clés, que tu passes pas par la cheminée, mais par la fenêtre, que tu brises en passant, et je crois vraiment que comme le Père Noël, de toute façon, tout le monde t'aime. Parce que ta générosité, ta gentillesse, elle est distillée par tes bons soins à ta famille, mais aussi à tes copains, à tes amis, aux gens qui t'entourent, à ton public, tes auditeurs. Enfin, je pense vraiment, Vincent, que t'es un mec génial. Je t'embrasse et je t'aime.
Et ouais, c'est toujours... Quand tu as dit, c'est toujours... hier soir, elle était quand même moins dans ses... Quand je suis rentré à 2h du matin, elle était moins dans ses... Elle était moins élogieuse à mon
ouais,
regard.
On ne l'a pas enregistré à ce moment-là.
Ouais. Je pense qu'elle n'a pas enregistré hier à 2h du matin. Parce que quand je suis rentré de chez Nounours, rue Princesse...
Alors, c'était très sympa, Vincent, mais quand on sort de boîte, il peut y avoir quelques problèmes. Et notamment un interrogatoire. Nous allons passer à l'interrogatoire de Vincent Moscato.
Oui.
Le joueur que tu détestais affronter ?
Bon, il y en avait... T'avais des mecs comme Narbonne, comme un mec comme Francis Desjardins. Après, dans la dureté, quand j'étais plus jeune, il y avait Bernard Herrero, le talonneur de Toulon, qui était très très dur. Très très dur.
Le mec le plus fou ?
Bon, le plus fou, c'est-à-dire à quel niveau un peu brut. J'en ai eu, moi. J'ai Serge, Simon, Jambert. J'en ai eu quand même un wagon qui était quand même travaillé au niveau de la neurone. Hein, je veux te dire... J'ai quand même, il y a eu des zinzins hein, dans ce sport quand même.
Ta plus grosse cuite, Vincent, c'était quoi ? Et c'était quand ?
Oh, il y a longtemps. Les plus gros, c'était à Gaillac au Ricard. J'avais 17 ans. Je m'en souviens de tout le temps parce que je crois que j'ai vomi toute la nuit. Et puis j'en ai eu dans Saint-Barth aussi où j'ai pas trouvé les toilettes. Il y avait une baie vitrée, je croyais que je pissais dehors. Et j'ai pissé sur la baie vitrée et j'avais fumé un cigare. Je fume jamais le cigare avec une bouteille de rhum. Je sais pas pourquoi, à un moment donné. Plus du pipi, j'étais debout contre la baie vitrée, il y a tout qui est venu. Je me suis recouché comme ça et ma femme m'a réveillé en me disant il y a un chien caché dans le lit. Et donc j'avais de la merde partout, du ventre jusqu'au bout des pieds. Et elle a marché à un moment donné, elle tombe sur un nut par terre. Elle était pieds nus, elle me dit qu'est-ce que c'est, il y a un chien caché dans l'appartement. Et c'est moi qui avais chié en marchant. comme un cheval, quoi, comme le 14 juillet. Toi, tu vois, j'ai la différence entre un cheval et moi, il n'y en avait pas ce jour-là, c'était le 14 juillet. D'entrée, je me souviens, je vais contre la baie vitrée, je crois que c'est, je suis dehors, je pisse contre la baie vitrée, et là, pouf, tout qui vient. Et je reviens, je te jure, comme ça, je me remets dans le lit, et là, c'est la Bouzman.
On va écouter justement une personne sur cette histoire, non pas du tout.
Un témoin, la femme de ménage. Oui, si, c'est mon scatome, je sais
pas
le tout.
Pas facile de reprendre l'interrogatoire après cette magnifique histoire. La salle où tu rêves de jouer.
L'Olympia, mais j'y ai déjà joué.
Ben oui,
parfois.
Déjà fait l'Olympia.
Non, les Zéniths, mais j'y joue régulièrement. Après, il n'y a pas
de... À New York, le Madison Square Garden.
Ouais, le Madison, mais bon, après, il ne faut pas rêver non plus... Il n'y a pas de Français qui jouent aux États-Unis, ça n'existe pas, quoi. C'est du... Quand on te dit, machin, il joue aux États-Unis, tout ça, c'est que du flanc au prénom. C'est pas vrai. Hein. C'est... Un Français aux États-Unis, t'es connu comme Portugais au Cameroun, hein. À peu près pareil. Hein.
La dernière fois que tu as pleuré, Vincent ?
Quand ma femme m'a frappé, probablement. Quand j'ai pleuré, j'étais ému. J'étais ému d'apprendre l'amour de quelqu'un, bien sûr. Ouais. J'ai eu les yeux qui se mouillent, de l'émotion.
Et pour terminer cet interrogatoire, ton plus beau moment à l'antenne ?
Oh, Mike Tyson, je le dis souvent, c'est, pour moi c'était quelque chose, c'était un moment d'émotion, beaucoup, beaucoup d'émotion de recevoir ce mec, pour moi c'est
Vincent,
quelque chose de spécial.
Impressionné par quelqu'un, ça n'est pas arrivé souvent, tu prends l'antenne avec Mike Tyson.
Il est là en chair et en os dans ce studio, Mike Tyson. Hello Mike, thank you very much.
Hello.
Thank
Bonjour.
You very much.
Bonjour, madame.
Thank you. You progress in French, Mike.
No.
No, it's difficult. C'est difficile. Mike, merci d'abord d'être venu. J'ai envie de... Tu fais ta tournée pour ton livre. Ce livre, c'est un peu l'histoire de ta vie et puis de ta vie à la recherche d'une identité.
I don't know if it's that. Maybe it is. I don't know. You may be right. No one ever told me.
Et voilà ce petit passage avec Mike Tyson.
Ah, c'est un grand moment, c'est un grand mec, un grand mec, c'est un des géants du XXe siècle.
Merci beaucoup Vincent.
Avec un talent fou, bien sûr.
Merci beaucoup Vincent.
Ouais, écoute,
c'est un plaisir.
Ce moment aussi, c'est un plaisir et bravo pour ton émission qui est super bien préparée, qui m'a mis beaucoup d'émotions. Ouais, ça m'a mis beaucoup d'émotions. Bravo, t'es un grand professionnel.
Très gentil et j'ai passé un très bon moment avec toi. Demain, Willy Sagnol ouvrira à son tour la boîte à souvenirs à 20h. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, le producteur, Suzanne Folly à la réalisation,
j'embrasse
et Nicolas Pelletier, notre
et,
journaliste.
Et notamment Denis Charvet que je viens de voir passer dans les studios. Voilà.
Vincent, tu as commencé cette émission, je vais te laisser la terminer, t'adresser aux auditeurs et on te retrouve très vite dans le Super Moscato.
Ouais, mais d'abord c'est grâce à vous que je suis encore là, ça va faire 14 ans que j'ai une quotidienne, donc je vous embrasse, je vous aime et puis vous savez 16h-18h c'est le Super Moscato Show, mais c'est RMC, ça commence très tôt le matin avec les matinales, c'est une radio pas tout à fait comme les autres, donc suivez-nous, moi je vous embrasse, je vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes et puis à bientôt.
RMC, la boîte à souvenirs.